Mais en parlant de prophète, hein? De prophétesse, de prophète, c'est quoi un prophète?
Les porte-paroles de Dieu.
Hey, tu lis dans mes pensées? Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu, c'est quelqu'un qui voit comme Dieu voit. Quelqu'un qui pense comme Dieu pense, puis il sait ce que Dieu veut aussi, hein? Puis ils le disent. Donc, ils portent parole de Dieu. Il y a comme des refrains, hein? Voici ce que dit l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Et souvent, les prophètes, ce sont des prophètes de malheur. C'est, je sais pas si ça avait passé à travers les prophètes, mais Jérémie, lamentation de Jérémie, t'as hâte que ça finisse, hein? Et en particulier, Dieu va parler au peuple de Juda par l'intermédiaire de Jérémie. « Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés inlassablement pour vous dire que chacun renonce donc à sa mauvaise conduite, corrigez votre manière d'agir, ne suivez pas d'autres dieux pour les servir, et vous pourrez rester sur la terre que je vous ai donnée à vous et à vos ancêtres. Pourtant, vous n'avez pas tendu l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. » Alors, c'était simple. Si vous êtes infidèle, si vous abandonnez le Seigneur, si vous abandonnez l'Éternel en particulier, qui était le nom de Dieu, et que vous vous tournez vers les idoles, les païens, ben, ils vont vous dominer. Vous allez être livrés à l'ennemi. Et ce qui devait arriver est arrivé. Israël déménage en exil, déporté à Babylone. Plus de pays, plus de temple, plus de sacrifices, plus de liturgie, comme on a fait parler tantôt, plus de Jérusalem, plus de temple, hein, plus de sacrifices, plus de prêtres, plus de rois. Est-ce qu'ils vont être exterminés? Est-ce que c'est fini? Le peuple d'Israël, on n'en parle plus. Ils ont disparu dans la nature, ils ont été avalés, engloutis par le monde qui est autour. Et ça tient à un fil. La vie du peuple de Dieu tient à un fil, et ce fil-là, c'est le prophète. Tout ce qui reste, plus de prêtres, plus de rois, il ne reste que les prophètes. Hein? Dieu, dans sa grâce, continue à parler à son peuple. Même abandonné, même en exil, Dieu continue à parler à son peuple. Wow, il y a de l'espoir. Hein? C'est pas juste des prophètes de malheur, des prophètes d'espoir. Ils prédisent quelque chose. C'est pas fini. Dieu continue à nous parler. Hein? Et tout ce qui reste, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de temple, il n'y a plus d'adoration. Ce qui reste, c'est la parole de Dieu. Dieu qui parle à son peuple. Il y a comme un transfert d'une adoration qui est extérieure au temple, avec toutes sortes de rituels. Il y a comme un transfert vers la parole de Dieu. Dieu qui parle à son peuple. Et la réceptivité qu'on a dans notre cœur. Écoutez Dieu. Donc, la foi en Dieu est pas morte. Il reste les prophètes. Comment est-ce que l'histoire de Daniel, qu'on va voir ce matin, c'est comment est-ce qu'on peut conserver une foi qui est vivante dans un milieu hostile, un environnement qui est opposé à Dieu, qui est anti-Dieu même. Il y a 179, dans le Nouveau Testament, ça s'appelle comment les païens ou le monde? Ben, je l'ai dit là, le monde. Hein? Il y a 179 références au monde dans le Nouveau Testament. C'est pas, hein, on a trois ennemis, la chair, le monde, le diable. Et un de ces ennemis-là, c'est le monde qui représente le monde hostile, le monde qui est anti-Dieu. On va voir quelle attitude qu'on doit avoir face à ce monde-là aujourd'hui. 179 fois où c'est, je vais vous le montrer pareil là, mais c'est plate. Quand tu parles du monde, là, sur les 179 fois, je sais pas, j'ai pas compté le pourcentage, j'aurais dû le faire, mais le monde, c'est négatif, hein? Je leur ai donné ta parole, le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je te prie pas de les ôter du monde, ça c'est important, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Qu'est-ce qui reste? La parole. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Ça, c'est important aussi. Hein? Dis pas de nous retirer du monde, mais il nous envoie dans le monde. Jacques est terrible. Hein? Lisez pas ça, vous êtes déprimé. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas? Et là, il parle à des chrétiens. Hein? Il s'adresse à des chrétiens. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Vous savez quoi ça veut dire, ça? Et finalement, Jean, qui poursuit dans son épître, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est assez radical aussi. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, le monde, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. On les connaît, ces versets-là, par cœur. Et il y en a plein, hein? Il y en a plein dans le Nouveau Testament. Alors, revenons à Daniel. Daniel est, on pourrait dire, retiré du contexte où Dieu habitait dans le temple avec tout le reste. Et Nabucodonosor, qui est le Tout-Puissant, hein, il choisit des garçons de la famille royale ou de famille noble, sans défaut physique, avec une belle apparence, remplie de sagesse, de connaissance, de discernement, afin de pouvoir entrer au service du roi dans son palais. On va leur enseigner la langue et l'écriture des Babyloniens. C'est top, ça, là. C'est l'université Harvard. Hein? Le roi prescrivit qu'on leur fournisse chaque jour la nourriture, le vin de la table royale. La nourriture du roi avec le vin de la table royale, qu'on les instruise durant 3 ans avec un bac, et à la fin de cette période, ils vont entrer au service du roi. Wow! Pas si pire que ça, le monde. Hein? Pas si méchant que ça, pas si mauvais que ça. Plein de bonnes choses. Ils sont choyés, ils sont privilégiés. Ils vont être éduqués, nourris, haut placés, aux frais du gouvernement. Hein? Alors, quelle est cette position-là de Daniel face au monde de son époque? Hein? C'est super. Qu'est-ce qui lui arrive, non? Pourquoi est-ce que Nebuchadnezzar, il lui veut tellement de bien à ce gars-là? Vous avez une idée? C'est parce que Nebuchadnezzar, il est tellement bon et tellement gentil. Il tombe en amour avec Daniel. Ouais, pas fou, hein? Le mouler. On va donner un petit indice. Ils changent leur nom. Daniel, qui veut dire Dieu mon juge, va être changé en Belshazzar, prince de Bel, le chef des dieux, pas n'importe qui. Alors, ton nom passe de Dieu est mon juge à le prince du chef des dieux, le prince de Bel. C'est comme ça qu'il va s'appeler maintenant. Hanania, celui que l'Éternel a favorisé, va devenir Shadrach, qui veut dire illuminé par Rach, qui est le dieu soleil. Illuminé par le dieu soleil. Ensuite, Michael, qui veut dire qui est semblable à Dieu, ça peut être une interrogation dans l'original, va être changé par Meshach, semblable à Shach, qui est la déesse de la fertilité. Et Azaria, celui que l'Éternel secourt, va s'appeler Abednego, serviteur de Nego, qui est le dieu du feu. Alors, on peut deviner un petit peu, il y a un indice là, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Nebuchadnezzar est en train de faire d'après vous? Changer leur identité. Hein? Maintenant, tu vas oublier qui t'es et qui t'étais. Puis maintenant, hein? Autre chose? Ben, ils étaient, comme on a vu, ils ont été choisis pour faire partie d'une certaine noblesse et rentrer au service du roi. Donc, comme Daniel. Non, probablement qu'ils n'ont pas changé les noms de tous les Juifs ou les Hébreux qui étaient à Babylone. Mais, il est en train de les assimiler. Hein? Vous allez avoir une vie tellement bonne que vous allez oublier vos racines, vous allez oublier votre pays, puis vous n'allez pas vous révolter. Vous n'allez pas devenir un peuple rebelle parmi... Parce que je ne suis pas pour tout vous assassiner, là. Je vais vous inclure, je vais vous déporter. Le but, c'était ça. Je les déporte, je les amène dans un autre peuple. Ils vont s'assimiler là, puis... On va éliminer les dangers de, excusez, dangers de révolte. Ça va? Alors, on pourrait paraphraser un petit peu, car Nabucodonosor a tant aimé le peuple de Dieu qu'il leur a donné tout afin que ceux qui ont foi en lui ne soient pas exterminés, mais qu'ils aient une belle vie à le servir lui seul en oubliant l'Éternel leur Dieu. Évangile selon Nabucodonosor. Hein? La tactique, c'est assimiler. Hein? Vous êtes tellement bien, tellement heureux, vous allez avoir tellement de succès dans le monde que vous allez oublier votre Dieu. Hein? Je ne veux plus entendre parler de l'Éternel. Il n'y a plus qu'un Nabucodonosor et il veut plus entendre parler de l'Éternel. Il veut qu'ils oublient, puis encore moins le prier, on va voir tantôt. Hein? Il y avait un interdit de prier. Trouvez-vous que ça ressemble à quelque chose? Ouais, tout ce qui est religieux. Ouais. Pardon? Ouais, c'est ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est vrai. On n'a pas changé la tactique. Alors, je pense que ça nous ressemble. Hein? Si on change le mot idole pour le monde, mais la différence, c'est que nous, on n'a pas d'idole. Hein? Ils sont cachés, hein? Ils sont cachés. Les Canadiens, pas toujours. Quand ils gagnent, on est plus plus attachés. Mais ça serait quoi des idoles modernes? Est-ce que le Québec, en évacuant toute la religion, a évacué tous les démons? Il n'y a plus de démons au Québec. Il n'y a plus de péché, il n'y a plus de démons, il n'y a plus de... Hein?
Moi, je trouve que Michel, un des plus évident, c'est le confort. Si on regarde toutes les affaires, les cinémas maisons, le chez-vous, le beau salon, les choses comme ça, si je regarde le laptop, qui est donc bien confortable, qui est donc bien confortable, etc. On va investir beaucoup pour notre confort.
Bien
ça, parle-moi pas de ça,
j'aime bien confortable. Confort. Ouais. OK, il y a une petite nuance que je vais faire tantôt, mais. Autre chose? Oui.
Ton seul, tu sais que tout conception de Dieu qui n'est pas seule de Dieu.
OK, vous avez compris? Toute conception de Dieu, tout portrait que je me fais de Dieu. Ah, OK. OK. Ouais, ouais. Ouais. Un exemple d'une mauvaise conception qu'on peut avoir de Dieu? Ouais.
On a dit que certains vont prêcher un Dieu qui donne de sa prospérité.
Ouais. Oui? Dieu donne, mais il ne sait pas partager également. Il y a comme des chouchous. OK. Dieu a des chouchous, hein? C'est vrai, il y en a qui sont plus privilégiés que d'autres. Daniel en est un. Hein? Si on compare aux autres qui ont été... Alors, bonne réflexion. Je pense qu'on doit continuer cette réflexion pour nous-mêmes. Mais l'exemple de Daniel, c'est que la foi triomphe du monde. Hein? Même dans, avec ce nom-là, ce faux Dieu-là auquel il a été dédié, nous tous étaient dédiés, consacrés à ces... Même dans ce contexte-là, qui était anti-Dieu, anti-l'Éternel, hein, il y a cet édit-là du roi qui dit, durant une période de 30 jours, quiconque adressera une prière à un Dieu ou à un être humain autre que le roi lui-même devra être jeté dans la fosse aux lions. On peut-tu s'imaginer 2 minutes que c'est en vigueur aujourd'hui? C'est incroyable, hein? C'est là où il était, là. C'est le contexte dans lequel il était. Tu crois, tu pries Jésus, tu meurs. Alors, OK, je vais aller prier chez nous, dans ma chambre. Je vais fermer. Hein? Qu'est-ce que Daniel a fait? Non, ça, c'est plus loin. Dans les forteresses, je raconte l'histoire d'un pasteur qui s'appelle Kepha Sempangi. Et Kepha Sempangi, c'est l'ennemi. Idi Amin, qui est un être épouvantable. Je vous raconte pas ce qu'il a fait, là, mais il faisait manger la chair des parents aux enfants. C'est juste pour vous dire, là. Un criminel épouvantable. Il n'y avait rien à son épreuve. Et Kepha est un pasteur, il y a une grande église. Et puis, Idi Amin a décidé qu'il n'en voulait plus de lui. Il avait peur d'un soulèvement, je ne sais pas trop. Alors, un jour après le culte, après la célébration, il y a un commando que Idi Amin a envoyé pour tuer Kepha. Alors, ils l'ont suivi dans sa chambre. Et puis là, ils ont mis un fusil sur la tempe. Puis ils lui ont dit... on a l'ordre de t'éliminer. Veux-tu dire quelques mots avant de mourir? Alors, Kepha, là, je vous résume ça rapidement. Kepha, tu m'as prié. Seigneur, moi, dans quelques secondes, je vais être dans ta présence. Et je paraphrase un petit peu, là, mais je ne voudrais pas être dans la peau de ceux-là, parce que eux, un jour, vont avoir à rendre compte du meurtre qu'ils viennent d'accomplir. Alors, il prie comme ça pour... il lève les yeux, les gars avaient laissé tomber le fusil. Et puis, on dit, « Veux-tu prier pour nous, pour notre salut? » Et il a prié pour eux, ils se sont convertis. Mais là, on dit, « On a un problème parce que faut qu'on aille rapporter qu'on t'a tué. » Ils ont dit, « Prends ta femme, tes enfants, je pense qu'il y a des enfants. » Puis il dit, va-t'en, fuis le pays le plus vite possible, comme ça nous on va dire qu'on t'a pas trouvé, et puis tu vas avoir la vie sauve. C'est ce qu'il a fait. Il a réussi à sortir du pays, il est arrivé aux États-Unis, il est allé au, Westminster Theological Seminary à Philadelphie. Il s'est inscrit là parce qu'il avait soif d'approfondir sa connaissance de la parole. Et là, il était le héros, faisait le tour des églises. Il était, un gars qui a un fusil sur la tempe, puis, il décide que il va croire en Dieu, il va continuer à croire en Dieu pareil. Témoignage puissant. Après un an, il écrit ceci. En Ouganda, ma femme Penina et moi, nous lisions la Bible et c'était une question de vie ou de mort. Nous la lisions pour trouver les promesses de Dieu, pour écouter ses commandements et y obéir. Nous n'avions pas le temps pour argumenter, être en désaccord avec lui ou douter de sa parole. Maintenant, dans la sécurité de notre nouvelle vie et avec la réalité de la mort qui s'estompe dans nos pensées, je me suis mis à aimer les discussions théologiques abstraites avec mes confrères étudiants. Même si ces discussions sont intellectuellement rafraîchissantes, notre communion tourne autour d'idées plutôt que de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Le changement le plus évident s'est manifesté dans ma vie de prière. En Ouganda, je priais avec un profond sentiment d'urgence. Je ne me relevais pas de ma prière jusqu'à ce que je sois assuré d'avoir été dans la présence de Jésus ressuscité. Maintenant, après un an à Philadelphie, la nécessité n'est plus là. Quand je prie en public, je suis plus préoccupé d'être théologiquement correct que d'être dans la présence de Dieu. Même en privé, mes prières ne sont plus des cris de désespoir d'un enfant impuissant. Ce sont des tranquillisants spirituels, des pensées détachées du vécu, de l'expérience. De plus, je me suis surpris en train de venir à Dieu avec de vagues requêtes pour des choses auxquelles je ne m'attendais même pas à ce que Dieu réponde. Le même gars là qui a le fusil dans sa tempe qui il dit le même gars à qui on pourrait dire l'opposition, quand l'opposition là est bien rebelle, est bien réelle, puis est concrète, puis tu as le fusil dans sa tempe, la foi est réelle. Si ça nous arrivait aujourd'hui là, moi je pense qu'il n'y aura pas de citation. En chantant des cantiques. Si c'est ça que Dieu veut, Mais c'est subtil. Quand l'ennemi est caché, quand l'opposition est subtile, quand le fusil est invisible, puis là c'est très confortable, la foi aussi est plus difficile à voir, L'ennemi a, à travers l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'Église, l'ennemi a choisi soit la persécution. Il y a combien de chrétiens qui sont morts, martyrs, assassinés, tués à cause de leur foi dans l'histoire. C'est juste dans les derniers siècles que ça s'est pas produit. Et même dans les derniers siècles, si on pense aux pays communistes, aux pays musulmans, il y a des chrétiens qui meurent encore aujourd'hui à cause de leur foi. Mais ce que je veux apporter ici, c'est que c'est pas parce que nous, on n'est pas persécutés, on n'a pas cette oppression-là, cette opposition-là, qu'il n'y a pas de combat. Parce que l'autre ruse, l'autre arme du diable, c'est le confort, la facilité. C'est tellement facile. Maintenant, là où je veux arriver, c'est quelle doit être mon attitude face au monde? Est-ce que le monde, c'est tout mauvais? Tout corrompu? Il n'y a rien de bon dans le monde? Puis on doit fuir, puis s'isoler toutes les choses qu'il y a dans le monde. Est-ce que c'est ça qui l'attitude qu'on doit avoir? On n'a pas le droit de jouir, d'apprécier des bonnes choses de la vie. Parce que ça, c'est le monde. On pense que c'est le monde. Alors, tous les avantages, les privilèges que certains ont et que d'autres n'ont pas, comme je dirais, je dois pas apprécier ça. Le confort, la sécurité, les plaisirs qui sont offerts, les belles choses qu'on voit dans le monde. Je sais pas si vous avez écouté, tout le monde en parle la semaine dernière. Il y avait un rapper, qui a pas de jambes, Hey boy! Wow! Hein? Jacques dirait que on doit pas, on bénit le Seigneur notre Père par notre bouche, mais par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Non! Hein? Non! Les hommes, même déchus, conservent l'image de Dieu en hein, quelque part. C'est brisé, c'est pas... Il y a des fois, ça fait dur, mais il y a d'autres fois où on peut voir Dieu à travers d'autres êtres humains qui sont pas chrétiens, qui sont du monde, si on peut dire. Puis on doit l'apprécier, on doit voir ça, puis être capable de dire, ce sont pas les personnes dans le monde qui sont qu'on doit haïr. Non. C'est ce système anti-Dieu, système corrompu qu'on doit dire, qu'on doit haïr. Est-ce que Daniel pouvait apprécier tous les bienfaits que Nebuchadnezzar? Oui, hein? Alors, vous êtes choyés peut-être dans ce monde, bénéficiez de toutes sortes de bonnes choses que Dieu a pourvues pour vous. Sentez-vous pas coupable? Hein? Merci Seigneur. Puis c'est un don que tu me fais, c'est une responsabilité que tu me donnes de bien gérer ce que tu m'as donné comme talent, comme ressource, comme hein. Et non, on est privilégié, on n'a pas à refuser ces privilèges-là. On a à les apprécier. Mais une chose qu'il faut pas faire, par exemple. Il y a un décret, à un moment donné, il y a un décret, il y a un fusil sur la tempe. Hein? Le décret, c'est, ben on l'a lu tantôt, là, que personne ne pouvait adresser une prière à d'autres dieux que Nebuchadnezzar. Lorsque Daniel a appris qu'un tel décret avait été signé, il regagne sa maison à l'étage supérieur, il ouvre les fenêtres orientées vers Jérusalem. Trois fois par jour, il se met à genoux pour prier et louer son Dieu, et il le fit comme d'habitude. Amen? Hein? Alors, il y a des moments dans notre vie où on met nos pieds, hein, à terre, solidement, ancrés dans la foi, puis on dit non. On dit non. Hein? Je ne me laisserai pas assimiler par ce monde. Je ne laisserai pas cette chose-là pénétrer dans ma vie parce que ça va tuer mon amour pour le Seigneur. Ça va tuer, ça va prendre mon temps pour le Seigneur. Ça va prendre mon énergie, ça va prendre tout mon talent va être consacré à autre chose que le Seigneur. Non. Non. Interdit. Hein? Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ses deux pieds à terre, puis il a dit, non, moi, je servirai pas un autre Dieu. Où est la ligne? Je pense que devant le Seigneur, chacun a une conscience, puis est capable de dire, je peux aller jusque-là, mais je peux pas dépasser cette limite-là. Et compter sur le Seigneur. On a reçu l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu va nous montrer là où est la limite qu'on ne doit pas dépasser. Parce que les valeurs du monde sont bien différentes des valeurs judéo-chrétiennes. N'est-ce pas? Et on doit mettre la ligne, on doit dire non, moi, je ne dépasserai pas cette limite-là. C'est ce que Daniel a fait. Il l'a fait avec conviction. Il a affirmé sa conviction avec foi. Il était prêt à en mourir, n'est-ce pas? Pour sa foi. Mais, de la façon dont il l'a fait, c'est, on doit apprendre aussi. Parce que c'est facile peut-être de se retirer de ces choses-là, puis d'avoir un regard hautain, un pharisien, sur hein, « je suis bien plus saint que toi parce que moi je ne fais pas ça ». Ça, c'est un... Regardez plutôt l'attitude de Daniel qui est allé voir son boss, si on peut dire. Et il le supplia ou le pria le chef des eunuques, de ne pas l'obliger à se souiller. Moi, je vois là-dedans une attitude d'humilité. Il est humble. Hein? Il est résolu dans sa conviction. Puis il l'exprime avec respect. Il l'exprime avec sans que l'autre personne se sente dévalorisée ou diminuée à cause de ça. Et je pense que c'est important qu'on est chrétien dans le monde et que parfois le cœur nous lève. Paul dans les Actes des Apôtres, c'était à Éphèse qui dit que son cœur était dégoûté par toutes les idoles qu'il voyait autour. Mais quand il a prêché, pas de trace de ça. Un grand respect pour ceux à qui il s'adresse. Alors, il y a moyen d'avoir des convictions solides, profondes, de les exprimer avec respect, sans cracher. Il n'a pas craché sur la viande, sur les mets du roi, n'est-ce pas? Alors, c'est à nous de trouver la façon, dans notre milieu, au travail, dans notre famille, d'avoir ce respect-là pour ce que les autres croient qui n'est pas comme nous, tout en ayant des convictions qui sont très, très fortes. Je sais, c'est pas évident. C'est à tous les jours, vous êtes dans le monde beaucoup plus que je le suis. Alors peut-être à tous les jours, vous êtes confrontés avec des choses que vous entendez, des gens qui partagent des affaires qui sont peut-être horribles à entendre à des chrétiens, à nos oreilles. Mais il y a un moyen de dire non, moi, ma foi, ma conviction, elle est solide, voici ce que je crois, et de le faire avec une attitude qui est respectueuse. Alors, Daniel, l'image de Daniel qu'on retient, c'est quoi? Hein? J'ai entendu? Un homme sage, mais ça s'exprime comment cette sagesse-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Si on veut l'avoir comme modèle. Pas de compromis. Pas de compromis. Une foi, inébranlable. Pas de compromis. Un moment donné, quand il y a eu la tempe sur le chose, il a dit non. Hein? Et dans ce monde-là où on peut être choyé, c'est très facile d'oublier le Seigneur. Hein? On n'a plus le temps pour le Seigneur, on n'a plus... Plus d'espace pour le Seigneur, le monde nous a absorbés. Puis, oui, vas-y.
Je trouve intéressant aussi que Daniel était résolument engagé dans la société. Malgré ses convictions personnelles, il s'est résolument engagé dans
la société.
Il a influencé sans s'en retirer.
Oui.
Puis ça, je pense que moi, c'est le modèle. D'ailleurs, c'était le modèle que j'ai suivi quand Dieu m'a dirigé comme conseiller municipal dans le district où j'ai été. Je suis le
temps. Oui.
Parce qu'il était intègre dans ce qu'il faisait, mais en même temps, résolument engagé dans la société pour l'influencer et la transformer.
Oui. Et si, là, on a juste effleuré un petit peu l'histoire, mais il y a quasiment conduit Nabucodonosor à l'Éternel, hein? C'est juste que ça a mal tourné parce qu'il a fait une immense statue de son Dieu pour rivaliser avec l'immense Dieu de Daniel. Mais il y a eu tout un témoignage, comme tu dis, hein? Dieu l'avait placé dans une position à l'intérieur de, hein? Oui, et tous les autres, hein? Tous les autres qui sont allés en exil, si on peut dire, c'est des modèles pour nous aujourd'hui. Un autre petit commentaire pour... on va aller au repas du Seigneur.
Moi, ça m'a fait penser à Thomas Hughes qui dit, nous ne pouvons pas autour de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Faites discerner qu'est-ce qui est bon et agréable.
Ouais. Donc, on a cette capacité-là dans notre conscience. Avec l'aide de l'Esprit de Dieu, on peut demander, Seigneur, qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? Est-ce que je peux faire ce compromis-là? Je pense qu'il y a des, des bons compromis à faire, mais il y en a d'autres que non. Alors, on va tous rendre compte devant Dieu de nos vies. J'espère que ça nous encourage à vraiment s'arrêter puis dire, oups, là, Seigneur, faut que je mette une limite. Hein? Et peut-être, de l'autre côté, de dire merci, Seigneur, pour toutes ces bonnes choses que j'ai droit, que c'est légitime de me procurer. Et la liste est très longue aussi. Amen.